Ésaïe 60, chapitre 1er, dit ceci: Lève-toi, brille, car ta lumière est arrivée. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Amen. Apocalypse chapitre 22, le verset 12, c'est un passage que nous connaissons, dit ceci: Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon que son œuvre. Parole du Seigneur, on peut se remettre. Éternel Dieu des armées, merci infiniment pour cette opportunité, encore une fois de plus, que tu nous donnes cet après-midi. Merci parce que tu nous as conduits ici afin que tu puisses nous parler et que tu puisses nous édifier. Laisse à ce que cet après-midi que je sois qu'un simple canal, mais que toi seul tu puisses parler à ton peuple. Je prie que tu puisses toucher la vie de quelqu'un cet après-midi et que nous puissions t'expérimenter aujourd'hui. Permets à ce qu'il y ait un avant ces cultes et après et que nous puissions témoigner ta grandeur au sein de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà, comme je le disais, je suis vraiment heureux d'être là aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. En fait, aujourd'hui, je suis venu aussi apporter deux réponses sur la question que nous sommes en train de nous poser depuis le début de l'année, depuis ce mois de janvier. Quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? C'est vrai, il y a eu des interventions depuis le début du mois. Et on était tellement édifiés. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi apporter une petite pierre qui nous aidera à prendre une bonne décision pour cette année 2023. Et la première réponse que j'aimerais, que le Seigneur a placée dans mon cœur afin de nous partager cet après-midi, c'est que quand les fondements sont renversés, les justes doivent être une lumière. Quand les fondements sont renversés, les justes doivent être une lumière. Et la deuxième réponse que j'apporte cet après-midi, c'est que quand les fondements de la terre sont renversés, les justes doivent comprendre que Jésus revient bientôt. Lorsque les fondements de la terre sont renversés, les justes doivent comprendre que Jésus revient bientôt. Parce que toute la fois où on verra le mal s'accroître, Jésus vient pour punir. Il a fait à l'époque de Noé, il a fait ça à l'époque de Lot, ça sera aussi la même chose à notre siècle. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, le thème de mon message de cet après-midi est intitulé « Sois éclairé ». Juste, sois éclairé. Quand les fondements de la terre sont renversés, les justes doivent être une lumière. Et mon message de cet après-midi a quatre objectifs. Le premier, c'est ce que je viens de dire, apporter deux réponses sur la question que nous sommes en train de nous poser, qui est dans Psaume chapitre 11, le verset 3, « Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il ? » Deuxième objectif, c'est que pousser à prendre une bonne décision pour cette année, de devenir et demeurer une lumière, car c'est notre mission. Troisièmement, c'est montrer les conséquences majeures si le juste va se confondre dans les ténèbres. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 30, « Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. » Quatrième objectif, c'est conscientiser le juste sur le fait qu'il a un compte à rendre à Dieu après son parcours sur la terre. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 22, le verset 12 que nous avons lu, Et voici, je viens bientôt et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Alors, cet après-midi, j'aimerais d'abord commencer par définir qu'est-ce qu'est la lumière, étant donné que c'est notre rôle, notre responsabilité. La lumière, c'est quoi donc? Selon d'abord les dictionnaires, on définit la lumière tout simplement comme étant ce qui éclaire et qui rend les objets visibles. Simplement. D'abord, ce qu'il faut savoir, selon la Bible, la lumière, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lune, ce ne sont pas d'abord les ampoules que nous sommes en train de voir. Voyez-vous, dans Genèse, En fait, Dieu n'a pas créé les soleils avant la lumière. Vous voyez, quand les ténèbres recouvraient la terre, il a dit que la lumière soit. Il n'a pas dit que le soleil soit. Les astres sont venus après que la lumière est déjà venue. Amen. En fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que la lumière, selon la Bible, c'est Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 8, le verset 12, c'est que Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Bibliquement, la lumière, c'est Jésus-Christ. La lumière, ce ne sont pas d'abord les astres illuminés, ce n'est pas d'abord le soleil et tout ce qu'on peut savoir. La lumière, c'est ce que nous sommes pour le monde et non pas pour la terre. C'est ça la troisième définition que la Bible essaie de nous montrer à propos de la lumière. Il y en a plusieurs, mais c'est ces trois ici qui m'ont beaucoup plus touché. Et très étonnant, dans Ésaïe chapitre 60, la Bible dit « Lève-toi et brille car ta lumière est arrivée ». Lorsque Dieu dit de te lever, c'est-à-dire que tu es en train de dormir, on ne peut pas dire à quelqu'un de se lever alors qu'il est déjà debout. Quand Dieu te demande de te lever, c'est un appel qu'il te donne afin que tu quittes la dimension à laquelle tu es et passes à une autre dimension. Quand Dieu te dit « lève-toi », c'est-à-dire qu'il te demande de quitter le cercle dans lequel tu es en train de te retrouver. Et il ne se limite pas qu'à nous dire de nous lever. Voyez, il dit de te lever et ne pas rester debout. Beaucoup de gens ont reçu l'appel, mais ils sont restés que dans l'appel. J'aimerais vous dire que l'appel ne suffit pas. Après l'appel, il y a une instruction qui est là que nous devons suivre. Il y a quelque chose que nous devons faire. Quand Dieu nous appelle, il attache à notre appel une responsabilité quelconque. Raison pour laquelle quand il dit « lève-toi », il ne se limite pas par là, il dit « lève-toi et brille ». Alléluia. Lève-toi et brille. Et quand Dieu dit « lève-toi et brille », c'est parce qu'il est conscient qu'il y a les ténèbres. Beaucoup de gens, lorsqu'on leur demande de briller, ils ont toujours une raison qu'ils nous donnent. « Oh non, moi je ne brille pas à cause de ceci. Voyez, dans ma famille, il y a des sorciers. Voyez. » Mais la Bible dit ici au verset, j'aime l'affirmation de Dieu dans cette prophétie. Il dit « Certes, les ténèbres recouvrent la terre. » C'est-à-dire qu'il est conscient que les ténèbres recouvrent la terre. Il sait qu'il y a beaucoup de circonstances qui peuvent t'empêcher à t'élever, mais il dit quand même « Toi, tu t'élèves car ta lumière est arrivée. » Amen. Peu importe des choses qui peuvent être la cause du fait que toi, tu ne brilles pas, sachez très bien que Dieu est au courant de tout ça. Voilà pourquoi il dit « Certes, en d'autres termes, on peut dire « Je sais qu'il y a, il y a beaucoup de choses, il y a les péchés qui englobent les siècles présents. » Mais il dit « Toi, sois différent. Lève-toi et brille car ta lumière est arrivée. » Et aussi, vous voyez, quand Dieu nous demande de briller, il ne nous demande pas de briller là où il y a la lumière. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont devenus des hypocrites. Ils viennent briller à l'église. Ici, ce n'est pas l'endroit où nous devons briller. C'est à l'extérieur. Là où il y a l'obscurité, c'est là où nous devons briller. Et j'aimerais nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, ces gens-là, ils stressent la plupart d'entre nous. Vous allez voir, avec trop d'hypocrisie, beaucoup de gens imitent des attitudes qui stressent certaines personnes dans l'église. Ou t'as monté comme Kanisa, Alaïmba Nalia, mais tu n'as aucune idée des dégâts de ce que cette personne-là est capable de faire. C'est pourquoi j'aimerais nous dire ce matin, en fait, ne compare pas ta vie spirituelle par rapport à l'attitude de quelqu'un à l'église. L'église est infiltrée par les messagers du diable ces derniers temps. Zamani ni kwana kwa stressé. Tukifika kwa mstari wa mbinguni make huyo akipita mimi basi. Il nous stresse dans des églises. On peut le voir en train de chanter, on voit les larmes qui coulent, mais quand on écoute les choses qu'il fait à l'extérieur, on se dit mais comment? Arrêtons d'avoir des attitudes qui ne définissent pas notre caractère à l'église. Autant mieux rester ici. Autant mieux rester à la maison, parce que notre travail, ce n'est pas de venir éclairer là où il y a la lumière. C'est là où les gens sont en train de souffrir, dans les ténèbres que nous devons éclairer. J'aimerais vous partager une histoire qui m'avait beaucoup tiqué. C'est l'histoire d'une sœur, d'une certaine église. C'est une sœur qui prophétisait. Donc, quand elle prophétise sur toi, ça doit arriver. Elle craignait Dieu, apparemment, parce que je vous assure, je ne me suis pas saisi le jour qu'on m'avait dit que cette fille-là a été engrossée. Bon, moi, je me suis dit peut-être que parce que je n'ai pas crié sur le fait que l'ange est apparu à Marie et lui dire que tu seras enceinte, je me suis dit peut-être que Dieu veut m'expliquer ça pratiquement. Mais cette fille-là, elle ne peut pas tomber enceinte. Comment? Je ne l'avais jamais vue avec un garçon. Alors je me suis dit peut-être que Dieu voulait m'expliquer que ce qui s'est passé avec Marie, ça vient aussi dans votre siècle. J'étais étonné d'apprendre que cette sœur-là était enceinte. Et franchement, j'étais parmi des gens qui disaient que non, elle ne peut pas faire ça. Jusqu'à ce qu'un peu après, on me dit qu'elle était championne dans les avortements. Elle était championne. Et puis je me suis posé la question, Anapitaka wapi, moi, qui la sanikuka, Nisa, Maombi, mais qu'est-ce qu'il y a au juste? Que l'attitude des gens ici à l'église ne nous trompe pas. Ne viens pas à l'église parce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire. Non, non, non. Viens pour rencontrer Christ qui va t'éclairer. Amen. Et pas pour les gens. Sinon, on sera déçus. On sera déçus. Déçus. L'église aujourd'hui, le diable a réussi à infiltrer ses messagers afin d'ébranler la foi de plusieurs. Mais ça ne sera pas notre partage cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne sera pas notre partage. Alors, ce que nous devons savoir ici, c'est que maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est maintenant, qu'est-ce que la lumière? J'ai déjà donné la définition de la Bible et j'ai dit encore que la lumière, c'est ce que nous sommes pour le monde et pas pour la terre. Jésus-Christ a donné une précision dans Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 16. Il dit au verset 13, vous êtes les sels de la terre. Mais au verset 14, il précise, il dit que vous êtes la lumière du monde. Regardez, les sels et la lumière sont deux choses différentes. Mais en sachant que ces deux choses-là ont de l'influence là où ça s'applique. Pour la terre, nous sommes les sels. Pour le monde, nous sommes la lumière. Il n'a pas dit que nous sommes la lumière de la terre, non. Mais il a dit que nous sommes la lumière du monde. Mais quelle est la différence entre le monde et la terre? C'est que la terre, c'est ce que Dieu a créé. Les pays, les continents, les océans, tout ça, c'est ce qu'on appelle la terre. Mais le monde, c'est un système que le diable a instruit sur la terre. C'est un système. Voilà pourquoi, quelque part, Jésus a dit, les princes de ce monde viennent, mais il n'a rien en moi. C'est un système que le diable a fait. Et c'est dans ce système-là que Dieu nous appelle à être la lumière. Pas sur la terre. Et puis regardez, et la lumière et le sel, ils ont une façon d'agir. Si tu prends le sel, bon, en fait, avec le sel, il faut que ça puisse être en contact avec une chose pour que ça puisse avoir de l'influence. Parce que le sel, on l'utilisait avant pour ne puisse pas se détruire, raison pour laquelle on utilisait le sel. Mais aussi, on utilise le sel pour donner la saveur à nos aliments, à la nourriture. Alors, tu ne peux pas mettre le sel à côté et mettre ta marmite ici et commencer à remuer et te dire, mais comment ça ne change pas les goûts alors que... Donc, il faut que le sel soit en contact avec le repas pour qu'il y ait une saveur qui va être sentie. Mais pour la lumière, si cette lampe-là, vous la collez sur les carreaux ici, ça ne va pas éclairer. Il faut que ça soit éloigné. Qu'est-ce que cela veut juste nous apprendre? Pour la terre, nous devons être les sels. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, les chrétiens doivent aussi entrer dans la gestion de ces pays. C'est-à-dire, nous retrouver aussi dans la politique, nous retrouver là-bas, pas pour que nous puissions ressembler aux politiciens qui sont corrompus, mais pour que nous leur apportions de la lumière. Amen. Donc, sur la terre, nous devons être là pour maintenir, arrêter la putréfaction, mais pas pour que nous puissions nous compromettre dans le système qui est instauré par les dirigeants de cette terre-là, mais pour que nous puissions éclairer dans ce système-là. Combien de fois nous ne faisons pas la différence à l'université, là où nous passons? Combien de fois nous ne faisons pas la différence dans le travail, dans les entreprises dans lesquelles nous sommes engagés. Ce n'est pas un péché de se retrouver dans une entreprise et travailler. Mais le problème, c'est de se conformer à la corruption se trouvant dans cette entreprise-là. Alléluia. Voilà pourquoi pour la terre, nous devons être les seuls. Nous devons être là. Quand on est en train de prendre de grandes décisions pour ces pays, on doit être là. Mais quand il faut appliquer une loi qui ne va pas arranger le peuple, nous nous sommes là pour montrer la lumière de Christ là où nous passons. J'aimerais nous dire ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, notre travail ce n'est pas d'amener les gens, ce n'est pas plutôt d'amener les gens à Christ. On s'entête beaucoup d'aller apporter les gens à Christ. Ça c'est la religion. La vie chrétienne c'est d'amener Christ aux gens là où ils sont dans la vie à l'église. Mais est-ce que ton attitude là dans les quartiers peut influencer quelqu'un à venir à l'église? Voilà les genres de décisions que nous devons prendre pour cette année. Rassure-toi que ta présence telle part est en train d'influencer quelqu'un. Et non pas... En fait, les religieux, il y a des choses qui me tiquent. Quelqu'un peut faire 10 ans dans une église, mais il est une pierre qui fait tomber des autres. C'est étonnant de voir qu'à l'église, on peut avoir des problèmes d'empoisonnement. C'est étonnant dans l'église, on peut avoir... Un jour, à l'église, on a peur de laisser les téléphones à côté parce que pendant la louange, il y a des gens qui viennent voler. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, notre travail à nous, je le répète encore, ce n'est pas d'essayer d'amener les gens à Christ. Nous ne sommes pas capables. Ce que nous devons faire, c'est d'éclairer là où nous sommes, dehors, dans le monde là, afin que les gens viennent à Christ. Alléluia. Maintenant, la question qu'on doit se poser, comment pouvons-nous éclairer? Comment pouvons-nous éclairer? D'abord, la première des choses que nous devons savoir, c'est que on ne peut éclairer que si on a été éclairé. Il est impossible de prétendre éclairer quelqu'un alors que toi-même, tu n'es pas éclairé. La Bible dit dans Actes chapitre 3, le verset 6, « Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. » Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ce que j'ai, c'est ce que je te donnerai. Si je ne suis pas éclairé, je ne peux pas éclairer. C'est impossible. C'est impossible. Il est impossible de prétendre éclairer alors que nous ne sommes pas éclairés. Tout en sachant que pour que nous puissions produire de la lumière, il faut que nous soyons connectés à une source qui est Jésus-Christ. Et c'est par Jésus-Christ que nous serons éclairés et à nous maintenant d'éclairer. Nous ne sommes là que pour perpétuer ce que Christ a placé en nous. La deuxième des choses, c'est que nous devons comprendre, c'est que, en fait, accepter que la lumière de Jésus-Christ nous impacte avant d'influencer ou d'éclairer d'autres personnes. C'est d'accepter que la parole de Dieu joue son rôle dans notre vie. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, « Toute écriture est inspirée par Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Que c'est devenu une habitude pour les chrétiens de ces derniers temps de commencer à s'attribuer des versets pour justifier leurs péchés. Toute personne a déjà un verset qu'il garde dans lui qui lui permet de calmer sa conscience. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, j'aimerais nous dire, prenons la parole de Dieu comme étant le miroir dans lequel on va se voir et arranger notre vie avec Christ. Acceptons que la parole de Dieu puisse briser des choses en nous et nous rendre parfaits selon ce que Dieu veut. Lorsque la parole de Dieu n'a pas de place en nous, il est impossible d'éclairer. Quand tu ne connais pas, quand tu n'es pas brisé par la parole de Dieu, tu es incapable d'éclairer. Incapable d'éclairer. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui sont dehors alors que tu ne connais même pas les dieux, tu ne connais pas même la source de la lumière que toi tu prétends éclairer? Il faut accepter que cette parole-là puisse transformer notre vie. Il dit encore pour convaincre, pour corriger notre défaut, corriger notre faiblesse. Acceptons que la parole de Dieu puisse avoir de la place dans nos cœurs et que ça puisse nous rendre tel que Dieu le veut. Et la troisième chose, c'est quand on a reçu le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Donc, avant le Saint-Esprit, pas question d'être un témoin de Dieu. Mon frère, as-tu reçu le Saint-Esprit pour être témoin de Jésus-Christ? En grec, le mot « témoin » qui est ici, en grec, on traduit ça comme « martyre ». Martyre qui signifie le martyr. C'est-à-dire quelqu'un qui accepte de donner sa vie pour quelque chose. Vous serez mes témoins. C'est vous qui allez témoigner. Et puis si on amène ça dans un sens, dans notre contexte actuel, la lampe témoin nous indique là où nous voulons, peut-être surtout ceux qui conduisent la voiture, quand vous voyez quelqu'un clignote comme ça, vous savez qu'il va aller de ses côtés ou de ses côtés. C'est de cette lumière-là que la Bible est en train de nous dire. Lorsque nous allons recevoir le Saint-Esprit, nous serons les témoins de Jésus-Christ partout où nous passerons. Je vous assure que l'une des bonnes décisions que nous allons prendre cette année, c'est de dire à Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit, afin que je te témoigne véritablement. Alléluia. Remplis-moi du Saint-Esprit, afin que je te témoigne véritablement. Alors, comment maintenant conserver cette lumière? Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir la lumière, mais il faut te rassurer que tu as bien conservé cette lumière. Comment maintenant pouvons-nous conserver cette lumière? C'est d'abord dans la présence de Dieu. La Bible dit dans Actes chapitre 3, le verset 1er, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Donc, même s'ils ont reçu le Saint-Esprit en Acte 2, mais en Acte 3, ils partent toujours à la montagne pour aller conserver cette lumière en eux. Beaucoup de gens ont perdu la lumière parce qu'ils ont reçu la lumière mais n'ont pas su comment conserver ça. Cet après-midi, j'aimerais que tu puisses prendre de chercher à maintenir cette lumière en toi afin que ça reste. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une lumière au début et de finir sans cette lumière. La deuxième des choses, c'est que on va conserver cette lumière dans la communion fraternelle. Vraiment, c'est très important. Aussi longtemps que nous ne marchons pas dans l'unité, dans une église, notre lumière va s'éteindre. Ici, la Bible dit que Pierre n'était pas allé d'abord seul, il est allé avec quelqu'un, c'est-à-dire en communion. C'est nous-mêmes qu'on doit se fortifier. Quelque part, la Bible dit que le fer aiguise le fer, afin que cette lumière-là soit conservée en nous. La communion entre chrétiens va faire à ce que notre lumière demeure dans notre vie. Et troisièmement, c'est lorsque, par le fait de briller, nous cherchons d'abord la gloire de Dieu. Jésus-Christ a bien dit ici, il dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 13, jusqu'ici au 16e verset, il dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. » Mais il conclut en disant « Et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. » Pas qu'il vous glorifie, vous. Beaucoup de gens, ils veulent que lorsqu'ils accomplissent quelque chose de bon, qu'on leur dise que c'est toi, c'est à cause de toi que ces choses sont faites. Il faut te rassurer que lorsque tu es en train d'éclairer là où tu es, que toute la gloire, tout revient à Christ. Dieu ne partage jamais sa gloire. Quand tu vas prendre la gloire de Dieu et commencer à te donner cette gloire-là, la lumière va s'éteindre et tu vas rester aussi dans le sommet. Amen, amen. Lorsque les gens verront nos bonnes œuvres, ce n'est pas à nous qu'on va amener la gloire, ce n'est pas à nous qu'on va adresser la gloire. Rassure-toi que lorsque tu es en train d'éclairer là-dehors, que c'est Christ qui est en train d'être élevé. Amen, amen. Alors, j'aimerais finir mon message cet après-midi en nous donnant en attelant beaucoup plus sur la deuxième réponse que nous avons apportée cet après-midi, en disant lorsque les fondements sont renversés, les justes que fera-t-il? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une conséquence aussi longtemps que tu n'acceptes pas de t'élever et de briller. La première des choses à savoir, c'est que les nations marcheront sur ta lumière. Aussi longtemps que tu es en train d'endurcir ton cœur, tu ne veux pas éclairer, sachez que tu es en train de faire souffrir des gens dans les ténèbres. Il y a des gens qui sont en train d'attendre que tu acceptes d'être cette lumière-là afin qu'eux aussi puissent croire en Jésus-Christ. Il y a des personnes qui sont en train d'attendre que tu puisses accepter, que tu arrêtes de te battre avec ton cœur. Aujourd'hui, tu as reçu l'appel de Dieu. Lève-toi et brille. Il y a des gens qui sont en train de souffrir. Et cet après-midi, j'aimerais nous dire que tout le monde n'ira pas en enfer si tu acceptes aujourd'hui d'être la lumière que Dieu veut que tu sois. Cela permettra que ceux qui sont dans les ténèbres, qu'ils voient ce que toi tu fais et qu'ils acceptent Christ. Et ce n'est pas ici à l'église, bien-aimé. Ici, tout le monde semble être chrétien. Là dehors, à l'université, là dehors, partout où nous passons, il faut que les gens qui sont là, ce sont ces gens-là qui ont besoin de voir cette lumière-là que Dieu a placée en toi. Rassure-toi que cette année, par ta façon d'être, il y a des gens, tu n'as pas besoin de prêcher. En tout cas, le fait de prêcher, ça ne suffit pas. La parole en elle-même ne suffit pas si elle n'est pas accomplie par les bonnes œuvres. Là où nous sommes en train de passer, il faut que les gens voient nos bonnes œuvres. Il y a une triste histoire que j'ai vécue là où je travaille avec un frère. Je suis arrivé dans cette clôture. Ce type-là, on le réputait comme étant un évangéliste d'une église pentecôtiste. Je pensais à m'attacher à lui pour qu'il m'explique certaines choses. Tellement il maîtrisait la Bible. Moi, je suis arrivé dans l'enclos, je me rends compte qu'en tout cas, lui, c'est un pasteur. D'ailleurs, on lui laissait une journée libre pour qu'il aille prêcher. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que ces frères-là, ils volaient chaque jour les poulets qu'on mettait dans le frigo pour cette maman-là. Chaque fois, ils sortaient. Et puis, ils me demandaient, mais petit Josué, mais oui, mon aoudipata, qui a passé tout l'envoi, tout l'encamat à ma boue. Ça m'a donné une confusion. Mais comment quelqu'un qui est réputé comme étant un évangéliste peut faire ces choses ici? Jusqu'à ce que le pauvre, il ne savait pas qu'on l'ait piégé. On l'envoyait au marché, on savait les prix exacts de la chose qu'on l'envoie, mais on essayait un peu de donner l'argent de plus pour voir s'il va même remettre. Il ne remettait jamais. Et la maman la faisait semblant comme si de rien n'était. Jusqu'à ce que finalement, son enseignement, qu'à ceux qui ont mis ni arbaïn. Apparemment, son enfant devrait avoir un anniversaire et il fallait qu'il lui donne un cadeau. Il a volé les sandales du patron. Et le jour-là, on a dit trop, c'est trop. Je me rappelle le jour qu'on était en train de le chasser et il y a une phrase que cette maman avait dit. Jusqu'à quand on va causer la honte à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Jusqu'à quand on va causer la honte à Dieu? Cette maman avait dit, Nanjo manajita ka pasteur oui. Et puis, ça aurait été mieux si c'était même la première fois. Lui, il pensait que c'était la première fois qu'on l'attrape. Il ne savait pas qu'on le piégeait du jour au lendemain. Il ne savait pas. Jusqu'à ce qu'il se retrouve main dans les sacs. On l'avait chassé comme un chien. D'ailleurs, on l'a poursuivi même. On voulait même le mettre en prison. On a perdu la confiance dans cette famille. Comment est-ce qu'on peut évangéliser une telle famille alors déjà nous-mêmes, on est en train de détruire? Bien-aimés, là où Dieu nous envoie, nous devons être de la lumière là-bas. Et c'est avec raison que cette famille reste dans leur mode de vie païenne. Parce que quelqu'un qui devrait leur apporter la lumière s'est comporté comme un païen. C'est vraiment triste. Alors je suis en train de finir à nous dire, bien-aimés, nous avons intérêt à éclairer le monde parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt et il te demandera, tu as écouté cette prédication aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu as ramené comme produit? Aujourd'hui, on est beaucoup plus distrait par certains enseignements, mais à un moment donné, il faut qu'on rapporte cet enseignement de dire aux gens que Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan, c'est du sérieux. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te rassurer que tu es en train de faire le travail qu'il t'a confié. Lorsque les fondements sont ébranlés, le juste que fera-t-il? Le juste doit comprendre que Jésus-Christ est à la porte. Lorsque les abominations qui se tiennent dans le monde commencent à arriver dans l'église, sachez que Jésus-Christ est à la porte. Lorsque la corruption qui est en train de hanter les hommes du monde commence à arriver, à rentrer même à l'église, sachons que Jésus-Christ est à la porte. Aujourd'hui, on ne sait plus On ne sait plus qui est qui. L'hypocrisie a beaucoup hanté nos églises. On ne sait plus à qui on doit faire confiance, sachant que Jésus-Christ est à la porte. Des petits enfants qui sont devenus des experts en sexologie. Et moi, je me rappelle, on a fait atteint... Bon, je ne sais pas, je n'aimerais pas dire ça. Il y a quelque chose qui m'avait étonné dernièrement. Je sais, c'était l'année passée. Une chorale de Codim, on devrait aller aider cette chorale-là pour que... Cette chorale avait une prestation. J'ai vu une petite fille, elle est en deuxième secondaire, donc elle peut avoir maximum 13 ans. Bon, j'ai salué la fille, mais le geste qu'elle a posé, j'ai été étonné. Parce que je me rappelle le jour à l'école secondaire, quand on venait nous apprendre sur les histoires de sida, on nous disait que nous, en tant que les enfants, quand vous saluez une grande personne et qu'il vous gratte ici à la paume des mains, c'est qu'il est en train de vous inviter au sexe. Et cette petite fille-là m'avait gratté comme ça. Ah, mais c'est moi. Et puis, je pensais peut-être que c'était par accident. En regardant la fille, elle m'a bien fixé les yeux, c'est-à-dire qu'elle est consciente de ce qu'elle a fait. Moi qui pensais qu'elle était naïve, qu'elle était innocente. Mais on comprend que cette fille... D'ailleurs, c'est quelqu'un qui m'avait dit que cette petite-là, elle connaît tout sur le sexe. Nous autres, heureusement que ma mère est là, elle ne voulait même pas voir le numéro d'une fille dans mon téléphone quand on était encore à l'école primaire. Jusqu'à ce que j'ai été obligé de renommer même le numéro de mes petites filles avec qui on était avant. J'écrivais Nelson pour que quand maman va voir... Elle n'arrêtait pas de me dire que Banamuke ni moto. Mais aujourd'hui, les enfants de l'école primaire savent tout sur le sexe. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Ma prière pour notre jeunesse cette année, c'est que nous soyons et demeurons la lumière qui doit impacter et influencer le monde extérieur. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous aide à être cette lumière-là. Est-ce qu'on peut courber nos têtes? Merci Seigneur. Merci Père. Angaza njia yangu. Angaza usiniache.